Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 février 2021. Bonjour, bienvenue. Le procès d'un ancien rebelle sierra-léonais s'ouvre aujourd'hui en Finlande. Surnommé à l'époque l'ange Gabriel, Djibril Massakwa encourt la perpétuité pour des crimes de guerre aggravés et crimes de la situation au Tigré en Éthiopie qui nécessite selon lui des mesures urgentes. Une réunion du Conseil de sécurité sur le Tigré est prévue aujourd'hui à la demande des Occidentaux selon des diplomates. Au Tchad, 12 responsables de partis politiques de l'opposition ont scellé une alliance électorale pour présenter un candidat unique à l'élection présidentielle d'avril face au sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, qui doit être investi samedi par son parti. Il ne s'agit ni d'une fusion, ni d'un regroupement de partis, ni d'une coalition de partis, mais d'une alliance électorale dénommée Alliance Victoire, ont déclaré mardi les 12 signataires, parmi lesquels Saleh Kebzabo et Mahamat Amat Alabo, deux ténors de l'opposition tchadienne. Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, en visite dans la partie anglophone du Cameroun, en proie à une insurrection séparatiste, a lancé à l'occasion d'une messe un appel à la paix et à la réconciliation. Le gouvernement camerounais était officiellement représenté durant la messe par Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chargés d'enquêter sur les origines de la pandémie de COVID-19, se sont rendus aujourd'hui dans un important laboratoire de recherche de Wuhan, ville du centre de la Chine, considérée comme le berceau du coronavirus. Cet institut est au cœur de théories du complot selon lesquelles c'est une fuite dans le laboratoire qui a provoqué les premières contaminations au coronavirus à la fin de 2019. La Chine a été appelée par certains scientifiques à publier l'ensemble des données sur les échantillons du coronavirus étudiés dans le laboratoire. Les États-Unis ont formellement accusé mardi les militaires birmans d'avoir perpétré un coup d'État ouvrant la voie à une réduction de l'aide américaine, mais le chef de l'armée a semblé balayer les condamnations internationales et les appels à la libération d'Aung San Suu Kyi. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni mardi en urgence et à huis clos, n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un texte commun, mais les négociations vont se poursuivre. La Cour internationale de justice, CIJ, plus haute juridiction de l'ONU, doit se prononcer aujourd'hui sur sa propre compétence à trancher sur une demande de l'Iran d'annuler les sanctions nucléaires américaines réinstaurées par le président Donald Trump, affirmant que Téhéran avait traîné les États-Unis devant la CIJ en 2018, affirmant que Washington avait violé un traité d'amitié entre les deux pays datant de 1955. Selon les États-Unis, la Cour de l'ONU basée à La Haye aux Pays-Bas n'est pas compétente pour juger l'affaire et doit par conséquent en abandonner le traitement. L'opposant russe Alexei Navalny a été condamné mardi par un tribunal moscovite à 3 ans et demi de prison. Son avocat a annoncé qu'il ferait appel de ce jugement et ses proches ont appelé à manifester dans le centre de Moscou. Le président américain Joe Biden, accompagné de la première dame, a rendu mardi un dernier hommage solennel aux policiers tués après l'assaut du Congrès, dont la dépouille a été exposée au Capitole, un honneur exceptionnel. L'agent Brian Sicknick, âgé de 42 ans, a succombé à des blessures reçues lors d'affrontements avec des partisans du président Donald Trump lors de leur intrusion violente au Capitole. C'était le 6 janvier dernier. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, législative en Centrafrique, l'opposition se retire du processus électoral. République démocratique du Congo, le président du Sénat visé par une motion de censure et une enquête pour détournement. Et ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump accusé de trahison sans précédent par les procureurs démocrates. Jean-Roger Billon à ce micro, on revient dans un instant. Nous émettons de Washington. À tout à l'heure. La suite de nos informations en ce mercredi 3 février 2021, la coalition de l'opposition en Centrafrique se retire entièrement des élections législatives. Elle dénonce ce qu'elle appelle un simulacre après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation du scrutin du premier tour. Jacques Aristide.
La Cour constitutionnelle a annulé avant-hier, pour des irrégularités, les résultats du premier tour dans 13 circonscriptions sur 140. L'incertitude demeure pour 58 autres où le scrutin n'a pu avoir lieu en raison de l'insécurité. Pour la Code 2020, c'est le nom de cette coalition de partis d'opposition centrafricains. La Cour constitutionnelle a confirmé que les législatives ont été un simulacre. Dans un communiqué, les leaders de la Code 2020 déclarent se retirer entièrement du calamiteux processus. Ils disent noter avec étonnement qu'aucun chef de l'opposition n'a été élu au premier tour et qu'un seul a été retenu au second. Plus d'un mois après le vote, ce sont donc 118 sièges qui restent à pourvoir, soit lors d'un second tour dont la date n'a pas encore été fixée, soit au terme d'un nouveau scrutin à deux tours. La réélection du président Faustin Archange Touadéra est également contestée par l'opposition en raison notamment du très faible taux de participation. Deux électeurs sur trois n'ont pas pu voter le 27 décembre dernier dans ce pays en proie aux attaques de groupes armés qui contrôlent deux tiers du territoire centrafricain.
En République démocratique du Congo, la justice demande d'ouvrir une instruction sur des soupçons de détournement de fonds publics contre le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, visé par une pétition de ses collègues. Le point avec Eddy Isango.
Le bureau du Sénat a réfuté les allégations des détournements dans sa réponse au procureur. Il n'a donc pas autorisé l'ouverture d'une instruction. Confirmant la réponse adressée par écrit au parquet, les présidents du Sénat, M. Tambwe, a reconnu hier devant des reporters avoir accepté d'y loger provisoirement à son domicile 2 millions d'euros et 1 million de dollars parce qu'il est sorti très tard de la banque. Les fonds ont, selon M. Tambwe, été ramenés le lendemain et acheminés à la trésorerie. En dehors de ces soupçons, M. Tambwe et tout son bureau, à l'exception du vice-président Sami Badibanga, un proche du président Félix Tshisekedi, font l'objet d'une pétition signée par 84 sénateurs sur les 109 que compte le Sénat. Quatre jours plus tôt, les premiers ministres Ilunga Ilunkamba, un proche de l'ancien président Joseph Kabila, comme Tambwe Mwamba, a été déchu par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le nouveau bureau de l'Assemblée sera élu en remplacement du précédent qui était constitué en majorité des proches de M. Kabila. L'ancien bureau a été évincé 3 semaines plus tôt, également à la suite des pétitions votées par ceux qui se regroupent aujourd'hui dans l'Union sacrée, la nouvelle coalition du président Tshisekedi.
Ici aux États-Unis, les procureurs démocrates au procès de Donald Trump, qui démarre la semaine prochaine au Sénat, estiment que les actions de l'ancien président avant l'assaut de ses partisans sur le Congrès le 6 janvier, constitue une trahison d'une ampleur historique. Les détails avec Abdourahman Dia.
Le président Trump a incité une foule violente à attaquer le Capitole des États-Unis et sa volonté de rester au pouvoir à tout prix est une trahison d'une ampleur historique. Elle appelle une condamnation à l'issue de ce procès qui débute au Sénat le 9 février, affirme-t-il dans leur argumentaire de 77 pages. Il est impossible d'imaginer que les événements du 6 janvier se soient produits sans que le président ait été une poudrière, allumé une allumette, puis cherché à tirer personnellement profit du chaos qui a suivi, assurent les procureurs des élus démocrates de la Chambre des représentants. L'ancien président a été mis en accusation par la Chambre le 13 janvier, mais son mandat s'est terminé le 20 janvier. Ses avocats ainsi que certains élus républicains contestent la légalité des poursuites contre un président n'étant plus en fonction. Le Sénat ne peut pas démettre de ses fonctions le 45e président dont le mandat a expiré, explique-t-il. Donald Trump est le premier président de l'histoire américaine à faire face à un second procès en destitution. Il n'a jamais reconnu explicitement sa défaite à la présidentielle.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
En Mauritanie, les populations rurales des régions du Brakna, Gorgol et Tagande peuvent accéder à l'eau potable et à l'eau pour l'irrigation, l'hydraulique pastorale et l'assainissement grâce au projet Pénissère. 17 forages et 34 nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable ont été réalisés au profit de 120 000 personnes. Le projet a été financé par un prêt de 3,15 millions de dollars et un don de 4,10 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Mis en œuvre depuis 2013, il prendra fin cette année. la nouvelle minoterie africaine, une entreprise sénégalaise de l'agroalimentaire, a cédé une part minoritaire à Emetis, gestionnaire français de fonds d'investissement. Ni le montant de la transaction, ni la part du capital social vendu n'ont été précisés. La nouvelle minoterie est l'un des principaux acteurs agroalimentaires dans la distribution de farine de blé, de pâtes alimentaires et la fabrication d'aliments pour animaux au Sénégal. Elle produit par jour 55 tonnes de pâtes alimentaires et 400 tonnes d'aliments pour le bétail, la volaille et les poissons. Pour terminer, le géant américain du pétrole Exxon va réduire ses dépenses d'investissement et développer la commercialisation d'énergie moins polluante. Dans le sillage de la chute de la demande d'or noir et de celle des prix du pétrole, Exxon a accusé une perte d'environ 23 milliards de dollars en 2020 contre un bénéfice d'environ 15 milliards de dollars en 2019. C'est la plus lourde perte annuelle de l'histoire d'Exxon.
Place à présent à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui se déroulent au Cameroun, mettent aux prises ce soir le Mali et la Guinée au stade de Japoma à Douala. Coup d'envoi, 15h, temps universel. Puis à 19h, place au choc Maroc-Cameroun à Limbé. La finale se disputera le 7 février au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La rencontre se jouera sous le regard d'Ahmad Ahmad qui a repris les commandes de la Confédération africaine de football après la décision du tribunal arbitral du sport qui a suspendu la sanction prononcée contre lui par la commission d'éthique de la FIFA en novembre dernier. Cette commission l'avait suspendu 5 ans de toute activité liée au football pour, entre autres, détournement présumé de fonds. En Côte d'Ivoire, le championnat de Ligue 1 de football reprendra le 14 mars prochain. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de foot, mis en place par la FIFA, nous a informé des dispositions qu'il a prises pour organiser le championnat le 14 mars 2021, a expliqué Alexis Vagba, président de l'Africa Sport d'Abidjan. Le championnat ivoirien 2019-2020 a été interrompu en mars 2020 au cours de la 20e journée sur 26 et a vu le Racing Club d'Abidjan leader être déclaré champion. Ce sera la première fois que cette compétition se joue sous tutelle de la FIFA. Le 14 janvier, la sénatrice Mariam Dao Gabala a été choisie par la FIFA pour présider le comité de normalisation de la FIF et tenter de régler la crise concernant l'élection de son président. Les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés l'an dernier de 2020 à 2021, en raison de la pandémie, auront lieu quoi qu'il arrive concernant l'évolution de la crise sanitaire. C'est ce qu'a affirmé le président du comité d'organisation japonais Yoshiro Mori. Nous devons dépasser les débats sur le fait de les tenir ou pas. La question, c'est de savoir comment nous les organiserons. A martelé Yoshiro Mori, cette déclaration intervient alors qu'un durcissement des conditions d'accès au Japon pour les non-résidents, a déjà forcé le report de plusieurs événements sportifs, dont une épreuve test de natation synchronisée. Cette épreuve, qui sert aussi de tournoi de qualification olympique, a été décalée à début mai, alors qu'elle devait se tenir début mars. Le relais de la flamme olympique à travers le Japon doit toujours démarrer le 25 mars.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. En République du Congo, une bonne partie de l'opposition a choisi le boycott de la présidentielle prévue le 21 mars 2021. Mais qu'en pense la majorité présidentielle accusée, entre autres de n'avoir pas préparé les conditions du bon déroulement de ce scrutin majeur? Nani Talani a joint à Brazzaville au Congo, Elvis Talissa au Combi, coordonnateur de la plateforme Denis Sassou Nguesso Ourien et député de Ngo dans le département des Plateaux. C'est aussi l'ancien ministre des Relations avec le Parlement.
Pour les Congolais lambda, je pense que ce retrait était attendu. L'UPADES n'est plus ce grand parti des années 92. Aujourd'hui, nous savons tous que l'UPADES n'est plus qu'une mutuelle où un certain nombre de cadres se sont accaparés de ce parti du professeur Pascal Lissouba. Cette décision est une escroquerie politique parce que ces mêmes leaders qui donnent des raisons fallacieuses pour ne pas se présenter à une présidentielle sont quand même volontaires pour participer aux prochaines élections législatives. Mais parce qu'ils savent très bien qu'au plan national, ils ne représentent rien. Mais au plan local, ils sont capables de se faire élire députés dans leur village, dans leur département. Donc c'est une décision logique et nous savions déjà tout ce que le UPADES ne pouvait pas aller aux élections présidentielles.
En dehors de l'UPADES, il y a d'autres opposants aussi qui se retirent ou qui manifestent leur désintérêt pour ce scrutin. Est-ce que cela ne va pas avoir un impact négatif sur la crédibilité de ce scrutin?
Mais pas du tout, madame. Le Congo, c'est 342 000 km². Vous avez un certain nombre d'acteurs politiques qui n'ont jamais dépassé le cap de leur ruelle ou de leur quartier pour faire la politique, mais qui passent tout leur temps à s'exprimer sur les chaînes étrangères ou bien sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il faut aller dans un scrutin à circonscription unique comme une présidentielle, je pense que c'est le réalisme qui rattrape un certain nombre d'acteurs politiques. Nous savions, les Congolais savaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur ces acteurs-là, parce qu'au stade actuel, ils savent qu'ils ne sont pas crédibles. Mais cela pose un problème de fond. Je pense que dans les prochaines années, qu'il y ait une réelle alternance au plan politique, parce que il y a une classe politique qui a failli dans la conduite des idées, qui a failli dans les propositions, qui a failli justement aussi à trouver des solutions à un certain nombre de problèmes des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais savent qu'ils ont un président qui est à la manœuvre et qui essaie de trouver des solutions à leurs problèmes et ils sont fidèles à ce président.
Certains opposants et membres de la société civile dénoncent l'impréparation dans ce scrutin majeur, notamment la non-révision des listes électorales. Que répondez-vous à ça?
Mais madame, au moment où nous parlons, la révision des listes est effective. Cette révision prendra fin le 7 février pour votre gouverne. Il y a des commissions administratives de révision des listes électorales qui ont été mises en place. Et dans ces commissions administratives de révision des listes électorales, toutes les composantes de notre pays, je parle de la majorité, de l'opposition, du centre et de la société civile, donc les organisations les plus représentatives de la société civile, sont représentées dans ces commissions administratives de révision des listes électorales. Il y a des bureaux d'enregistrement qui ont été mis en place. Donc là encore, je pense que c'est une méconnaissance de ce qui se passe dans notre pays. Mais bon, lorsque vous avez des opposants qui passent plus de temps dans leur maison que d'être au contact des populations, donc ils ne connaissent pas ce qui se passe dans ce pays.
Et donc, selon vous, les conditions sont réunies pour organiser un scrutin crédible et transparent au Congo le 21 mars?
Madame, un scrutin commence d'abord par une liste électorale. Nous avons une liste électorale consensuelle qui a été mise en place en 2014 avec le recensement administratif spécial. Et c'est cette liste-là que nous sommes en train de réviser aujourd'hui. La commission d'organisation des élections de notre pays est paritaire. La composition paritaire commence dès le bureau de vote qui est paritaire jusqu'à la commission nationale d'organisation des élections encore qui est paritaire. La commission vient d'être reformée, donc il n'y a pas de débat à ce niveau. Pour que chacun soit candidat maintenant, que chacun pose sa candidature et se mette à un débat de campagne pour essayer de solliciter des suffrages des Congolais. Donc toutes les conditions de transparence, d'égalité et de traçabilité des résultats sont réunies pour que nous puissions avoir un scrutin équitable.
Est-ce que le PCT peut encore offrir quelque chose au Congo après un long règne de 35 ans qui ne lui a pas permis d'aider les Congolais à vivre au-dessus du seuil de la pauvreté?
Bon, je ne suis pas du PCT, d'abord, il faut le dire. Je fais partie des partis qui soutiennent l'action du président de la République. Nous n'avons pas la prétention de dire que le président de la République a tout réussi. Ça serait un mensonge. Mais vous ne pouvez pas dire que toutes ces années, le président de la République n'a rien fait. Il y a des choses qui ont été faites, voilà. Il y a des choses qui restent à faire, mais les Congolais continuent à faire la confiance au président de la République. Les Congolais continuent à avoir cette relation fusionnelle avec le président de la République. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites et les choses qui restent à faire. Et ils font confiance aujourd'hui au président de la République de façon que la longue marche que le président de la République propose vers le développement, ils sont rassurés qu'avec lui, nous atteindrons les objectifs que nous sommes fixés. Les Congolais ne sont pas aveugles. Le peuple sait, le peuple regarde, le peuple sait ce qui a été fait. Le peuple aussi est conscient des difficultés, des limites qu'on a pu avoir, mais le peuple continue à faire confiance au président de la République pour continuer à diriger ce pays.
C'était Elvis Alissa Okombi, coordonnateur de la plateforme Denis Sassou Nguesso ou rien.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM.
Au Burkina Faso, de nombreux enfants qui ont été contraints de quitter l'école face à la menace djihadiste travaillent dans les mines d'or dites informelles où ils risquent d'être victimes d'accidents. Henry Wilkins a réalisé ce reportage dans l'une des plus grandes mines d'or du Burkina. Le récit est signé Jacques Aristide.
Ici à Bouda, dans le nord burkinabé, les mineurs gagnent leur vie en travaillant dans des conditions dangereuses. Le Burkina Faso est le cinquième producteur d'or en Afrique, mais entre 700 et 1 millier de ces mines sont exploitées de manière informelle. Les enfants font partie de la main-d'œuvre. Parmi eux, Aziz Zabré, qui a quitté l'école il y a 2 ans pour travailler dans les mines.
J'étais à l'école, mais je ne pouvais pas gagner d'argent. J'ai suivi mes amis dans cette mine. Quand j'obtiens de l'or, je peux faire jusqu'à $90 par mois. J'en donne une partie à mes parents et je garde le reste pour mes besoins.
On estime à 20 000 le nombre d'enfants qui travaillent dans les mines d'or du Burkina. Pour Ali Ouedraogo, propriétaire de l'une de ces mines, les enfants se tourneront vers des activités criminelles s'ils n'ont pas d'autres opportunités. Il admet toutefois que la situation n'est pas idéale.
Oui, bien sûr, c'est bien pour les enfants d'être à l'école. J'ai même des enfants à l'école.
Rocky Gadamé a fui sa ville natale du nord du Burkina à l'arrivée des militants islamistes. Aujourd'hui, à 13 ans, elle fait partie des mineurs.
Nous étions à l'école lorsque ces individus sont arrivés le visage couvert, mais ils n'ont pas pu nous capturer car nous avons fui nos classes rapidement. Ma famille et moi avons quitté Soman pour aller à Ouagadougou et de là à Bouda, où nous travaillons dans cette mine.
Mais les mines ne sont pas non plus à l'abri des terroristes. Ils les attaquent et réclament une partie des revenus pour financer leur lutte contre le gouvernement burkinabé. Des efforts sont en cours pour aider les enfants contraints de quitter l'école. L'appel au financement en faveur de ces enfants a été entendu récemment par au moins une ONG internationale. Il s'agit de Education Cannot Wait, qui a promis une enveloppe de 59 millions de dollars. Yasmine Chérif est sa directrice.
J'ai hâte de travailler avec vous tous pour parler au monde de la situation, des défis, des souffrances et sensibiliser la conscience morale du reste du monde.
Pour le ministre burkinabé de l'éducation, Stanislas Waro, l'argent va nul doute aider.
Donc ça va permettre donc de pouvoir réhabiliter des infrastructures scolaires, construire des classes à passerelle pour permettre à des élèves déplacés internes de pouvoir être scolarisés. Ça va permettre aussi de payer certainement des vivres pour des élèves et tout. Ça va permettre aussi d'accompagner les filles donc qui sont généralement donc laissées pour compte.
Quant à Rocky Gadamé, elle a peu d'espoir de retourner bientôt à l'école.
Je veux aller à l'école, mais je n'ai pas les moyens de prendre le bus. C'est trop loin d'ici à la ville à pied.
Néanmoins, sortir les enfants des mines d'or demeure l'objectif à atteindre.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Direction Tombouctou, ville mythique du nord-ouest du Mali, où se tenait ce week-end un festival de musique, tout un symbole. Autrefois prisée des touristes, la cité surnommée la Perle du désert a été meurtrie par la guerre occupée par des islamistes pendant presque un an, de 2012 à 2013. À l'époque, ils avaient imposé leurs lois et interdit la musique. Aujourd'hui, l'insécurité demeure et des groupes djihadistes sont actifs dans toute la région, souvent infiltrés dans les populations. Avec ce festival, la jeunesse tente de retrouver une liberté et de penser des plaies encore profondes qui divisent les communautés. Envoyé spécial à Tombouctou, Patricia Huon.
La 5e édition du Vivre Ensemble.
Tombouctou fait la fête et le temps d'un week-end tente d'oublier le conflit, les problèmes, les tensions à l'occasion d'un festival au nom porteur d'espoir, Vivre Ensemble. Baba a 13 ans, il est venu avec quelques amis et déborde d'enthousiasme.
Ce que j'ai bien aimé, c'est lui qui a chanté « Aïtiera Belle, Kodjei Makayama ». C'est ça qui me plaît. Ensuite, la guitariste, c'était bon, magnifique.
Ce festival, qui en est à sa 5e édition, apparaît comme une renaissance après les heures sombres qu'a traversé la ville occupée en 2012 par les islamistes. La mission des Nations Unies au Mali soutient l'événement. Ricardo Maya, le chef du bureau de Tombouctou, y voit un pied de nez aux extrémistes.
Les gens se retrouvent autour de la musique qui avait été interdite, nous le rappelons, par les extrémistes pendant l'occupation de Tombouctou. Et c'est pour cela que nous en faisons un point politique. Il faut vraiment contrer la vague islamiste avec des moyens égaux et contraires. Si ça empêche la musique, on fait un festival de musique.
Dans la foule des familles, beaucoup de jeunes, des garçons, des filles, la jeunesse de Tombouctou se réapproprie peu à peu des espaces de liberté.
Autrefois, on empêche carrément aux jeunes filles de sortir pour ce genre d'événement. On croit que la jeune fille est faite pour la maison et après s'est mariée. Aujourd'hui, Dieu merci, on voit les jeunes filles qui sont à l'école, ils étudient et je souhaite devenir une économiste dans le futur.
Même ici, Touareg, Arabes, Songhaï se côtoient sans vraiment se mélanger, mais les voir se réjouir ensemble est une scène qui est devenue rare. Les rébellions Touareg, puis les groupes djihadistes qui se sont implantés partout dans les zones rurales alentour et recrutent jusqu'en ville, ont entraîné un repli sur soi et de la méfiance qui ont aggravé les tensions entre les groupes. Avec un père arabe et une mère Songhaï noire, Ali, un étudiant passionné de littérature, fait figure d'exception.
Les Touaregs sont représentés, les Noirs sont représentés, donc du coup chacun se sent concerné dans la chose. Aujourd'hui, les gens accusent trop les peaux blanches, les Touaregs, les Arabes, on dit qu'ils font partie des terroristes, or que ce n'est pas le cas. Ce qui fait la beauté d'une nation, c'est la diversité culturelle.
Alors que tout le monde se perçoit victime de l'autre, que plus personne ne se comprend, le festival s'est déroulé sans encombre, un petit pas vers la réconciliation, mais un moment cathartique qui ouvre une fenêtre sur un avenir possible. De retour de Tombouctou, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden a signé mardi 3 décrets pour faciliter la naturalisation de 9 millions de migrants, la réunion des familles séparées et la refonte des voies d'immigration légale. M. Biden a déjà annulé la construction du mur à la frontière avec le Mexique et levé l'interdiction d'entrée sur le sol américain de ressortissants de certains pays. Nathalie Barge a demandé à Maître Joseph Fah quels sont les principaux problèmes d'immigration hérités de l'administration Trump et qu'est-ce qui va changer.
Commençons par la plus désastreuse à mon avis. Il s'agit de celle de la séparation des enfants de leurs parents. Ça, c'était quelque chose qui a affecté la condition humanitaire des enfants immigrés aux États-Unis. Biden a pour mission de tenter de faire un reversement total par rapport à cette loi-là. Au-delà de ce problème, il y avait également le fait que les demandeurs d'asile devaient rester au Mexique et en attendre leur date d'audience à partir du Mexique avant de pouvoir rentrer aux États-Unis s'ils sont reconnus éligibles pour obtenir l'asile ici à l'issue d'un procès. Il y avait également ce qu'ils avaient appelé le public charge rule. C'est une règle qui empêche à ceux des immigrants étant sur le sol américain qui ont utilisé les bénéfices comme les programmes sociaux, les food stamps, la santé gratuite, tout ça, ça vous empêchait d'obtenir la résidence permanente ou alors si vous êtes résident et vous voulez demander la nationalité que votre enfant est en train de bénéficier de l'un de ces programmes sociaux, vous vous verrez inéligible à travers le formulaire I-944 qu'ils ont créé pour vérifier qu'aucun des immigrants ici ne puisse entrer en possession d'une résidence permanente ou alors de la nationalité, s'ils sont susceptibles de bénéficier de ces programmes sociaux. Un autre problème, il y avait ce qu'ils appelaient la déportation expéditive des gens pendant le COVID. Même quand vous avez un dossier d'asile qui pose un problème humanitaire, ils ne vous entendent même pas au fond de votre dossier, mais on vous rapatrie de façon expéditive en évoquant le titre 42 qui avait également à voir avec ce qu'ils appellent la pandémie du COVID-19, le public health emergency.
Alors à ce propos, la question du retour des expulsés n'est pas vraiment encore évoquée, mais au cas où cela devrait se produire, les procédures doivent être assez complexes pour ce type de cas.
Tout à fait. Retourner ces personnes qui avaient été expulsées ici, ce serait extrêmement compliqué parce que tel que le droit positif américain le prévoit jusqu'ici, lorsque vous êtes déjà déporté une fois surtout pour avoir violé le droit d'immigration, vous êtes prévenu de revenir ici sur une durée de presque 10 ou 20 ans en fonction de ce qui vous est reproché. Et puis il faudrait d'abord attendre que cette période s'écoule et que vous devez monter un autre dossier pour demander qu'on vous excuse. Et même avec Obama, c'était des procédures extrêmement compliquées.
L'administration Biden parle de naturaliser 9 millions de migrants. Dans quel cas sont ces migrants en particulier ?
Il s'agit de ce qu'on appelle les DACA, les enfants qui sont arrivés ici très tôt par des parents. Et beaucoup d'autres migrants qui sont ici depuis un bon nombre d'années. On parle environ de 11 millions de personnes. Et c'est un programme qui s'étale sur une durée de 8 ans pour que, si vous avez respecté toutes les conditions, que vous soyez à terme éligible pour la nationalité américaine. Pour ce qui est de DACA, c'est un programme, si ça passe immédiatement, ceux des DACA devront automatiquement avoir la résidence permanente, communément appelée la Green Card.
Quel sera selon vous le changement le plus important de l'administration Trump par rapport à l'immigration ?
Je pense que si on fait déjà un renversement du droit d'asile, parce que le droit d'asile affecte millions et millions de personnes. Tout le bouleversement que M. Trump avait fait sur le droit d'asile devrait être changé pour que ça puisse changer la vie de plusieurs personnes qui demandent l'asile sur des problèmes humanitaires ou des raisons de persécution, qui sont menacées de mort et parfois sont même poursuivies. Près de 1700 personnes ont été déjà tuées en attente d'asile ou d'une audience d'asile au Mexique.
Maître Joseph Fa, avocat spécialiste des cas d'immigration, joint dans le Maryland. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellent.